le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonjour à tous. Il n'y aura plus aucun contact entre l'autorité palestinienne et Israël, et cela tant que les mesures limitant l'accès à l'esplanade des mosquées de Jérusalem resteront en vigueur. Décision de Mahmoud Abbas hier soir, un geste inhabituel pour le dirigeant palestinien et qui montre combien la situation est grave. Depuis une semaine et la mise en place d'un portique de sécurité, les affrontements entre Palestiniens et police israélienne se succèdent. La journée d'hier a été particulièrement sanglante, avec 6 morts en une soirée, 3 Palestiniens et 3 Israéliens. Étienne Monin est à Jérusalem pour France Culture.
Cette journée de vendredi contient les éléments catastrophes redoutés par beaucoup qui peuvent conduire à l'embrasement si l'un des camps ne change pas de cap. Il y a d'abord les heurts entre Palestiniens et la police. Ils ramènent la tension au niveau de l'été, automne 2015. Près de 400 blessés ont été comptabilisés par le Croissant Rouge. Il y a eu des heurts dans plusieurs quartiers de Jérusalem-Est. Dans la soirée, une attaque a visé la colonie de Al-Amish au nord-est de Ramallah. 3 Israéliens ont été poignardés à mort par un Palestinien infiltré. Il y a les ingrédients de l'escalade, d'autant que les positions se sont crispées. Le cabinet de sécurité israélien a confirmé sa décision avant-hier de maintenir les détecteurs de métaux. Les autorités religieuses musulmanes ont répété hier qu'elles demandaient le retrait du dispositif. Et hier, le président de l'autorité palestinienne a fait savoir qu'il gelait les contacts avec Israël tant que le dispositif de sécurité serait en place.
Étienne Monin, le correspondant de France Culture au Proche-Orient. J'ajoute que le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, appelle aujourd'hui à une grève générale à Jérusalem et en Cisjordanie. Une femme et un homme proche de lui, prêts à le défendre dans la tempête de l'affaire russe. Donald Trump a dû remanier hier son équipe de communication. Son porte-parole, Sean Spicer, a démissionné après 6 mois de bons et loyaux services. Il sera remplacé par Sarah Huckabee Sanders, une femme de 34 ans qui a rejoint Donald Trump dès la campagne présidentielle. Une intime, tout comme Anthony Scaramucci, le nouveau directeur de la communication de la Maison-Blanche. Les États-Unis qui durcissent encore une fois le ton face à l'Iran. Washington demande à Téhéran de rapatrier rapidement les Américains emprisonnés par la République islamique. Si les autorités iraniennes ne s'exécutent pas, Donald Trump menace d'imposer de nouvelles sanctions. Des menaces déjà formulées il y a quelques jours par le président américain. C'était là au sujet du programme iranien de missiles jugé déstabilisateur. L'accord sur le nucléaire iranien est-il remis en cause? Non, affirme-t-on, côté américain et iranien. Des candidats passèrent à tabac, des observateurs électoraux intimidés et à la fin, un score de plus de 80% pour le pouvoir en place. C'était la méthode de Ben Ali ou d'Habib Bourguiba en Tunisie. Hier soir, des responsables de l'ancien régime et des opposants à la dictature ont témoigné publiquement à la télévision. Ils ont raconté comment les élections ont été truquées dans le pays pendant plus de 50 ans. Et ça, c'est inédit en Tunisie. Le reportage à Tunis de Justine Fontaine.
Tous ceux qui ont témoigné hier soir l'ont répété. Pour eux, les premières fraudes massives et flagrantes remontent à 1981, sous le régime du président Bourguiba. À l'époque, Idriss Guiga est sous-préfet dans une région rurale de l'ouest du pays. Il raconte comment, à la préfecture, sont traités les bulletins du mouvement des démocrates socialistes, le principal parti d'opposition. Après le coucher du soleil, les représentants du MDS ont quitté la salle, raconte cet homme d'une soixantaine d'années. Il poursuit, il y a eu des instructions disant que le MDS ne doit pas dépasser la majorité des voix, puis ils ont dit qu'il ne devait pas dépasser 10 ou 15%. À la fin, ils étaient à 3%, conclut-il. Sous le régime de Ben Ali, la fraude électorale se poursuit. Monji Elouz, du Parti des démocrates progressistes, un parti de gauche, s'en souvient très bien. Par exemple, dans ce bureau de vote lors des élections législatives de 1989. Un membre de la liste est resté pour observer le dépouillement, explique-t-il. Ils ont pris toutes les urnes et ils les ont mises dans un sac poubelle. L'observateur est allé porter plainte, sans succès, et les fraudes se sont répétées jusqu'à la Révolution, il y a 6 ans et demi. Plus tôt dans la soirée, un autre opposant a tenu à terminer son témoignage par ces mots « Saisissez l'opportunité d'avoir des élections libres, allez voter aux élections municipales de décembre ». Le premier scrutin local depuis la chute de Ben Ali.
Un reportage à Tunis de Justine Fontaine. Et ces témoignages entendus dans le cadre du programme Vérité et Réconciliation. C'est une instance chargée d'établir la vérité sur les crimes de la dictature. En Pologne, malgré les menaces de sanctions de l'Union européenne, la réforme de la Cour suprême a été adoptée hier au Sénat. Ce texte, qui doit encore être promulgué par le président, prévoit de mettre les juges de cette cour à la retraite et de les remplacer. Bruxelles craint une remise en cause de l'indépendance l'indépendance de la justice. La réforme est aussi très critiquée dans le pays. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté jeudi dernier à Varsovie. Pour devenir un acteur célèbre, populaire et respecté, pas besoin de tenir le premier rôle. C'est la leçon que donne la carrière, la vie de Claude Rich, dont on a appris la mort hier. Il avait 88 ans. Claude Rich était l'un des derniers tontons flingueurs encore en vie. Plus de 80 films à son actif, du souper au crabe tambour en passant par Astérix. Et Corinne Pellissier, c'est surtout le visage de Claude Rich, ses yeux rieurs auxquels on pense tout de suite et à sa palette de jeux très variés.
C'est une chose dont nous pouvons parler entre hommes.
Oui,
je suis l'amant de votre fille.
Quoi ?
L'aristo des faubourgs, le salaud, le jeune premier, Claude Rich pouvait tout jouer, comme ici dans Oscar en 67, aux côtés de Louis de Funès. Toujours cet air espiègle et ses yeux ronds pour incarner l'une des figures les plus populaires du cinéma français. Chabrol, Lautner dans les années 60, puis René, Schoendoerfer, Tavernier. Il avait joué dans près de 80 films avec les plus grands. En 2008, un rôle de radin acariâtre pour Pascal Thomas dans Le Crime et notre affaire. Le réalisateur en garde un souvenir ému.
Je le connaissais depuis toujours. Quand j'étais journaliste, j'avais fait des portraits de lui. Quand j'ai fait de la publicité, je lui faisais faire des voix. Et on a pu enfin trouver le moyen de tourner ensemble dans un des Agatha Christie jouait le père avec une finesse extrême.
Les fils sont tous des menteurs. Bande de vautours.
Nous sommes tous assis sur un tas d'or et personne n'a le droit d'y toucher, c'est ridicule.
Passionné d'histoire, Claude Rich aura connu au théâtre comme au cinéma ses plus grands succès dans la peau de grands personnages comme Mazarin ou Talleyrand. C'était en 1993 dans Le souper d'Edouard Molinaro, un rôle qui lui valut un César.
Si vous le permettez, ce n'est pas de cette façon que l'on doit boire le cognac.
On prend son verre dans le creux de sa main. On le respire, on le repose et on en parle.
Le temps de ce samedi, une journée globalement nuageuse, instable, parfois pluvieuse et même orageuse, sauf près de la Méditerranée. Le thermomètre affichera 16 degrés à Guingamp, 22 à Lille et Paris, 27 à Strasbourg, la ville de naissance de Claude Rich, 24 à Biarritz, 26 à Lyon, 28 à Ajaccio et 30 degrés à Nîmes.